Dans 3 jours, la rentrée scolaire, mais les professeurs ont repris le travail aujourd'hui sur tout le territoire. Dans notre page spéciale rentrée, nous nous intéresserons également aux effectifs et aux orientations dans la province nord. Gladius veut racheter Brandt. Le groupe calédonien dirigé par Yorick Dang a déposé une offre de reprise du fleuron de l'électroménager français. Réponse dans quelques jours. En métropole, Bruno Retailleau annonce sa candidature pour l'Élysée. Le patron des LR se positionne avant même le choix de son parti sur d'éventuelles primaires. Nouveau scandale au Louvre, une arnaque à la billetterie impliquant des agents du musée a été mise à jour. Préjugé estimé à plus d'1 milliard de francs pacifiques. En sport, une belle médaille pour la Française Romane Miradoli. Elle prend l'argent sur le Super G. Et puis nous nous replongerons dans la Sydney Hobart. Les 3 équipages calédoniens qui y ont participé ont été célébrés hier soir au CNC. Bonjour à tous, bienvenue dans ce journal qui se poursuivra comme tous les vendredis avec le magazine Transparence. Bonjour Elisabeth Noir.
Bonjour Jean-François.
Vous recevrez cette semaine Milakoulo Toukoumouli.
Oui, c'est le président de l'Éveil Ossagne qui sera l'invité de Transparence pour revenir notamment sur le déroulement du conseil politique de son parti qui était réuni samedi dernier à Païta. Et puis nous l'interrogerons bien sûr sur l'accord de Bougival et sur l'accord complémentaire Élisée Oudinot, ainsi que sur son volet social et économique, mais également sur le positionnement de l'Éveil océanien qui revendique une voix médiane. Nous ne parlerons pas en revanche de sa campagne municipale à Païta pour respecter les temps de parole. On se retrouve donc juste après votre journal en compagnie de Milakoulo Toukoumouli.
Et à 16h45, ce sera évidemment le club politique Radio Rythme Bleu.
Au sommaire de ce club politique, la conférence de presse que tenait hier l'UNI, et ce sera aussi l'occasion de revenir sur la création de l'UPK, l'unité du peuple en Kanaky, qui réunit des dissidents de l'UNI. Nous évoquerons également la mobilisation du FLNKS avant l'examen par le Parlement de la réforme constitutionnelle. Nous nous pencherons sur le conseil politique de l'Éveil océanien qui s'est tenu il y a quelques jours. Et puis nous tenterons aussi de décrypter une récente interview de Manuel Valls et les réactions qu'elle a suscitées. Et enfin, nous ferons un petit focus sur les municipales. Rendez-vous cet après-midi à 16h45 pour le club politique de Radio Rythme Bleu.
Transparence et le club politique de rendez-vous incontournable du vendredi. Mais aujourd'hui, exceptionnellement, il faut en ajouter un autre. Nous sommes en effet le vendredi 13 et nous allons faire un heureux ou une heureuse aujourd'hui. Et pourquoi ce ne serait pas vous ? À 14h, hein, notez bien, ce sera le tirage au sort de notre grand jeu du million. 1 million de francs à gagner et à dépenser où vous voulez et comme vous voulez. Tous les SMS envoyés depuis le dernier tirage du million seront pris en compte. Alors s'il n'est pas encore fait ou si vous voulez augmenter vos chances de participer à ce tirage au sort et pourquoi pas de gagner ce million, vous envoyez tout de suite RRB au 4020, RRB au 4020 sur Radio Rythme Bleu. Il n'y a pas de jour sans jeu. Et à 11h33, on va ouvrir maintenant une page spéciale rentrée scolaire.
Suivez les pages rentrées avec l'As de Trèfle. C'est la rentrée à prix mini à l'As de Trèfle. Jusqu'au 22 février, retrouvez un large choix de produits de qualité, papeterie, agenda, sacs et cartables, multimédia et livres, et votre liste scolaire est préparée gratuitement. Rendez-vous à l'As de Trèfle Magenta, quartier latin Ecoumac ou sur asdetrèfle.nc. Ouais.
Encore un week-end de repos, le dernier pour les élèves. Mais les enseignants, eux, ont repris le travail ce matin. Ils ont fait leur rentrée dans tous les établissements du territoire, Charlotte Coulson.
Oui, après 2 mois de vacances, ils vont enfin retrouver leurs élèves lundi prochain. Pour préparer au mieux la rentrée, les chefs d'établissement réunissent traditionnellement leur équipe éducative le vendredi. Sont abordés lors de cette réunion les résultats scolaires de l'année passée, les enjeux pour l'année qui commence. Sylnès Poulous n'en est pas à sa première. Cela fait 30 ans qu'elle est enseignante. En 30 ans, que ce soit le comportement des élèves ou les pratiques éducatives, tout a changé.
On a maintenant un public qui a des habiletés sur le plan communication, informatique, manipulation d'outils numériques plus importantes qu'avant, et c'est tout à fait normal. Par contre, et ça c'est sans les effets secondaires, ils sont moins capables de se concentrer sur le long terme sur les apprentissages et puis la restitution ou l'application des apprentissages. C'est un enjeu, et surtout d'essayer de le faire en gardant leur confiance et en essayant de leur donner l'envie d'eux. L'envie de faire les efforts qu'il faut pour ça. Pas dans la force, mais plutôt dans la coopération avec eux, en leur montrant ce qu'ils peuvent gagner, par la concentration et en posant un peu leur téléphone. Et puis c'est un travail qui est long par contre, parce que ça ne se fait pas en 2 mois. Mais ça fait partie aussi des plaisirs de ce métier.
Et puis il y en a d'autres pour qui cette réunion marque le début d'une carrière. Madame Oudé est une jeune professeure d'anglais. Elle entame sa première rentrée au lycée La Pérouse avec beaucoup de hâte.
Pour le coup, c'est tout nouveau parce que c'est la première fois que je suis appelée vraiment en avance, où j'ai le temps de faire la pré-rentrée, de rencontrer tout le monde. Donc c'est bien de pouvoir voir un petit peu comment ça se passe et pas d'être lâchée dedans en plein milieu. Alors là, on a parlé un peu des plannings, des résultats sur les années précédentes. Les résultats sont très hauts à La Pérouse, ce qui est bien. Et du coup, c'est des élèves qui sont motivés, donc ça va changer. Des terminales, donc c'est vrai que c'est quand même la classe la plus haute. Et en anglais, ça va être un niveau qui est beaucoup plus haut. C'est vraiment l'approfondissement, le passage au B2. Donc j'ai hâte de voir s'ils sont motivés, s'ils s'ils sont prêts, effectivement, le niveau qu'ils vont avoir. De toute façon, dans tous les cas, il faut s'adapter aux élèves, aux soucis, aux classes. Donc, c'est toujours une adaptation.
Je le rappelle, un peu plus de 59 000 élèves sont attendus dans leur établissement scolaire lundi prochain.
Le gouvernement et la direction de l'enseignement catholique affichent aussi leur soutien aux professeurs avec une visite de terrain ce matin à l'école Saint-Jean-Baptiste à Nouméa. Visite pour rassurer mais aussi pour clarifier l'avenir de certains internats dont la fermeture a été annoncée il y a un peu plus d'une semaine, Léana Colombo.
Un dernier point avant la rentrée marquée par des soucis et des fragilités dans l'enseignement privé. Était présent pour cette réunion ce matin avec les enseignants, Alcide Ponga, président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, Isabelle Champmoreau, membre en charge de l'enseignement, le vice-recteur Didier Vindatich et le directeur de l'ADEC Manuel Von Erskott. Les effectifs ont été passés en revue et le plan de licenciement de l'ADEC a été évoqué avec les fermetures des micro-cantines et des internats. Et bonne nouvelle pour les familles concernées, une solution a pu être trouvée pour certains élèves, explique Isabelle Champmoreau.
On a eu une réunion très constructive hier avec le directeur de l'ADEC pour organiser la rentrée lundi dans les internats, puisque c'était vraiment le sujet d'inquiétude. Donc sur les plus grosses zones géographiques comme Païta, Bouraï, La Foy, mais aussi Point-d'Imier, des solutions ont pu être trouvées par le gouvernement, par l'ADEC aussi en interne, et aussi par la province sud qui ouvre des places supplémentaires, par exemple notamment sur La Foy. Il reste un sujet important, c'est celui de Pouébo, et donc la semaine prochaine, on aura une réunion entre partenaires pour faire évoluer la situation et trouver également une solution pour cette année sur l'internat de Pouébo. Pour moi, ce qui compte, et c'est le cas dans tous les domaines, c'est que le dialogue revienne et qu'on prépare la rentrée correctement. Pour moi, tout ça, ça dépasse complètement les différentes approches qu'on peut avoir. C'est normal qu'on les fasse valoir chacun de notre côté. L'important, c'est de préparer la rentrée correctement.
Reste donc le sujet sensible de l'internat de Pouébo. Les discussions se poursuivent, mais Manuel Von Erskott rappelle que la situation financière de l'ADEC est toujours fragile.
Pour l'instant, nous en sommes, à Pouébo notamment, encore au stade des promesses. Je ne peux plus croire aux promesses. Je le dis de manière très calme et apaisé, nous ne pouvons plus. Les promesses, nous allons y arriver, vous aurez des financements, ce n'est plus possible. Il faut se rendre compte que l'ADEC aujourd'hui, je n'ai pas de budget constitué pour l'année. Je navigue à vue. Quel est l'entrepreneur qui a plus de 500 personnels salariés qui n'a pas son budget? Par contre, pour Pouébo, il n'y a au jour d'aujourd'hui que 4 internes du lycée qui n'ont pas encore trouvé. Et il y a effectivement, nous l'avons vu encore avec Mme Champmaurière, 5 élèves du collège qui effectivement, les parents s'interrogent, mais la totalité de la quarantaine d'élèves internes, il y en a 9 qui sont en train de s'interroger et qui vont donc, on va leur proposer des solutions. Voilà.
L'école Saint-Jean-Baptiste compte 325 élèves maternels et élémentaires répartis dans 14 classes. Et si les effectifs sont en hausse, le plan de licenciement a également impacté l'établissement. Gaëlle Tarteret est la chef d'établissement de l'école Saint-Jean-Baptiste.
À Saint-Jean-Baptiste, on a la chance d'avoir une demande assez conséquente. Donc cette année, nous augmentons encore nos effectifs d'une dizaine d'élèves. Même si nous réduisons notre personnel suite au plan de licenciement de l'ADEC, nous avons anticipé et avons déjà trouvé des solutions en interne. Travailler avec un centre de vacances depuis presque une décennie. Donc effectivement, on perd un peu de notre image à l'ADEC. C'est une ambiance familiale, c'est vraiment quelque chose de très fraternel. Et aujourd'hui, il est vrai, nous externalisons les garderies du matin, du mercredi et du soir.
Malgré le plan de licenciement mis en place par l'ADEC, son directeur tient à rassurer les parents. La sécurité et l'accompagnement des enfants seront assurés, notamment pour les petites sections où un ou une aide maternelle sera bel et bien présente pour 24 élèves, soit le taux légal en vigueur.
Les provinces préparent aussi la rentrée. Nous avons parlé des rentrées en province sud et en province des îles. Intéressons-nous à la province nord, puisque ce sont plus de 10 000 élèves, toutes sections et tous enseignements confondus, qui sont attendus dans les écoles, collèges et lycées de la province nord lundi. Des effectifs relativement stable, explique Alexis Labo, le directeur de la DEFIGE, la direction de l'enseignement, de la formation, de l'insertion et des jeunes en province nord.
Les effectifs là, prévisionnels sont de l'ordre d'environ 4 700 élèves. Donc on est sur une stabilité sur le primaire public, avec une légère baisse sur l'IP4 de la côte est, mais en parallèle une augmentation sur la côte ouest de l'IP5. Donc par rapport à l'année dernière, on est plutôt sur une stabilité des effectifs. En total, on est sur 3 ouvertures de classe. Donc une à Canala, une à Nakheti et une à Foum. Et en parallèle, on est à 2 fermetures de classe. Donc une à Théari, ce sur Conné et aux Alamandas. C'est un dispositif classique dans le carte scolaire. Il n'y a pas d'impact sur les effectifs globaux, notamment sur la côte.
Et pendant la période des vacances scolaires, un certain nombre de travaux ont été effectués par les communes dans les écoles de la province. La province, elle, est en charge des travaux dans les collèges et les internats et elle a poursuivi lors de la période estivale la rénovation des 7 internats et des 9 collèges de la province. La province gère également les cantines avec une organisation particulière, explique Alexis Labo.
On est répartis sur des centrales de cuisine qui sont au sein de nos internats provinciaux. Donc en fait, on a 7 centrales de cuisine qui, elles, font la production et qui desservent l'ensemble des écoles publiques et également des collèges. Et aussi, par convention de prestation, on fournit certains enseignements privés, notamment la FELP. Et la nouveauté de cette année, c'est qu'on est en train de faire des simulations pour voir justement si on peut absorber au niveau du primaire privé la fermeture de différentes cantines de l'ADEC. Mais on part du principe que dans tous les cas, ça doit être la commune qui doit effectuer une demande formelle auprès de la province pour qu'ensuite on passe par une convention de prestation. On a par exemple la commune de Poum qui nous a déjà sollicité pour qu'on mette en place une convention de prestation de production des repas pour son école Saint-Joseph d'Arama.
Et puis notez un chiffre encore pour refermer cette page spéciale rentrée scolaire concernant notamment la province Nord. 344 enseignants seront prêts à accueillir les élèves à partir de lundi.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure de votre rendez-vous SMS avec la réponse à la question d'hier. 83% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS pensent que la priorité essentielle pour cette rentrée 2026, c'est la lutte contre le harcèlement et les violences. Ils sont 17% à dire que la priorité doit être la lutte contre le décrochage. Voici notre question du jour. Comprenez-vous que Mimsy Délay quitte la présidence du MEDEF pour s'engager en politique à l'occasion des élections municipales? Si vous comprenez sa démarche, vous tapez 1, sinon vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse au 3146.
C'était les pages rentrées avec l'As de Trèfle. C'est la rentrée à prix mini à l'As de Trèfle. Jusqu'au 22 février, retrouvez un large choix de produits de qualité, papeterie, agenda, sacs et cartables, multimédia et livres, et votre liste scolaire est préparée gratuitement. Rendez-vous à l'As de Trèfle Magenta, quartier latin Ecoumac ou sur asdetrèfle.nc. Ouais,
on va se retrouver dans un instant pour la suite de ce journal et nous verrons que le groupe Gladius, le groupe calédonien Gladius, souhaite racheter la marque Brandt. On en parle juste après la pause.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Notre équipe de Maridés chaleureuse et accueillante est à votre disposition pour vous faire passer une journée agréable au Phare Amédée. Réservez votre place sur amedeeisland.com.
Au frais du temps, au frais du soin, au frais du bien-être. Avec Quintessence, centre de bien-être et de régénération à Nouméa. Offrez une expérience sensorielle unique à la personne que vous aimez. Le bon pour s'aimer, disponible chez Quintessence au 16 rue de Sébastopol, 31 85 85.
Ce samedi 14 février, les pêcheurs vous donnent rendez-vous au marché de la Moselle. De 6h à 11h30, venez découvrir le tout premier fish market spécial Bossu Doré. Au programme, du poisson ultra frais, des animations et des dégustations. Venez rencontrer les pêcheurs et faire le plein de saveurs locales pour la Saint-Valentin.
RRB, 11h, 13h, Infomag, Jean-François Baudin.
C'est une aventure industrielle rare que s'apprête à vivre un groupe calédonien. Le groupe Gladius, présidé par Yorick Dang, a déposé une offre de reprise de Brandt, le fleuron de l'électroménager français qui a été liquidé en décembre dernier. Ce serait, Elisabeth Noir, une possibilité de développement exceptionnelle pour le groupe calédonien.
La liquidation de Brandt avait été largement commentée en fin d'année dernière. Ce fleuron de l'électroménager français est un groupe centenaire qui employait au total quelques 700 personnes et qui représentait les marques Brandt, mais aussi Vedette, Sauter et De Dietrich. Les acteurs économiques intéressés par la reprise de ce groupe emblématique avaient jusqu'à début février pour se faire connaître et 36 offres ont été déposées, dont celle d'un groupe calédonien, Gladius, qui est notamment représenté sur le territoire par la marque Toyota. Gladius a déposé auprès du tribunal de commerce de Nanterre une offre industrielle centrée sur les marques, le service après-vente et la relance progressive de l'activité industrielle, une offre de reprise ciblée et qualifiée de « solide ». Alors pourquoi le groupe calédonien s'est-il positionné pour cette reprise? Ce n'est pas la première fois que Gladius s'intéresse à l'avenir de Brandt. Il s'était déjà positionné en novembre 2025 lors de la phase de redressement judiciaire. Mais Yorick Dang explique qu'à l'époque, il n'avait pas réussi à trouver l'articulation adéquate pour construire un projet suffisamment robuste. Cette fois-ci, la donne a changé selon les dirigeants du groupe et ils reviennent avec un dossier beaucoup plus solide qui répond aux attentes du tribunal et aux réalités industrielles. Gladius revendique son expérience dans la gestion de marque, la distribution, le pilotage de chaînes d'approvisionnement international et le service après-vente. En Nouvelle-Calédonie, il est surtout connu comme distributeur de Toyota, mais il est déjà présent dans le secteur de l'électroménager au travers des marques Vestpoint et Océan qui sont distribuées dans plus de 90 pays. Selon son président Yorick Dang, le groupe a les moyens, la vision et l'expérience pour relever le défi. Le tribunal de commerce de Nanterre doit se prononcer d'ici une semaine sur la reprise de Brandt. Parmi les atouts du groupe Gladius, le fait que ce soit un groupe français, mais aussi un actionnariat qui restera entièrement familial et un financement assuré sans faire appel à des fonds publics. Cela lui permettra peut-être de se distinguer face aux 35 autres offres qui ont été déposées.
Le tribunal de commerce de Nanterre doit rendre sa décision dans les prochains jours et si l'offre de Gladius était retenue, cela marquerait un tournant majeur pour le groupe calédonien. L'actualité des élections municipales maintenant et la liste d'Umbea Collectif vient de se déclarer. Pour le moment, la tête de liste n'a pas été décidée. La liste regroupe des militants et élus de l'Éveil océanien, de Calédonie Ensemble, mais aussi du MNIS et des personnalités de la société civile, Nicolas Legrand.
Oui, ne cherchez pas d'étiquette politique sur cette liste. D'Umbea Collectif se présente comme une liste citoyenne qui compte redonner la parole et le pouvoir aux Dumbéens. L'objectif est de mettre fin à la défiance d'une partie de la population face aux élus et de convaincre les abstentionnistes qui était d'ailleurs 56% sur la commune en 2020 lors du dernier scrutin communal. Vaïmo Mouliava, qui a été chargé lors du conseil politique de l'éveil océanien pour s'investir dans la campagne municipale de Dumbéa, nous présente la philosophie de cette liste.
Notre stratégie à nous, c'est d'aller les chercher, d'aller leur dire que la politique, ce n'est pas l'affaire de quelques-uns, c'est l'affaire de tous. Les solutions proviennent du terrain. Alors comment organiser cela si ce n'est que d'aller vers ce qu'on appelle une assemblée citoyenne communale.
Il y a des personnalités de l'éveil océanien, des personnalités de Calédonie Ensemble et du MNIS. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes vraiment une liste citoyenne malgré tout? Comment vous faites justement pour dépasser ces clivages politiques?
Nous avons compris que la dichotomie entre l'élu et les citoyens doit cesser. Faire un bain de jouvence politique dans le réel avec des gens du terrain, c'est quelque chose qui ne relève pas d'une option. C'est capital. C'est aussi permettre de réduire la distance entre les décideurs, les politiques et les citoyens, et puis inverser la pyramide.
Et la liste d'Umbea Collectif compte faire émerger son programme des rencontres qu'elle aura avec la population. Elle compte mettre en place une assemblée citoyenne communale indépendante et des consultations publiques en amont des décisions structurantes pour la commune. Malaki est un artiste de 30 ans et il a décidé de s'investir dans cette campagne. Il a été, dit-il, séduit par la méthode.
D'abord, dans un premier temps, j'ai décidé de m'intéresser un peu plus à la politique puisque je fais partie de cette catégorie de jeunes qui se sentaient un peu délaissés, qui ne se reconnaissaient plus dans tout ce qui se passait politiquement. C'est ce qui m'a plu dans Umbea Collectif, c'est qu'ils sont très à l'écoute. C'est qu'ils vont essayer de créer quelque chose où les citoyens, chacun d'entre nous aura son mot à dire. Et plutôt qu'être des décideurs, ils vont être des médiateurs, et des facilitateurs pour le dialogue et le lien. Ça joue en notre faveur et on est vraiment représentatif de la population. Parce que c'est ça la population de Dumbéa et du pays en général, c'est tout bord politique, c'est des gens qui ne sont pas du tout politiques, c'est des gens qui surtout sont là pour construire, pour co-construire la ville. J'étais jeune, on demandait déjà une façon de procéder comme ça. Maintenant un peu plus âgé, je comprends un peu plus qu'on peut le faire, c'est ce que nous proposons.
Et fidèle à cette idée de tout décider avec et par les citoyens, la liste n'a pas été définie, ni même la question de la tête de liste pour le moment. Tout sera tranché lors d'un vote des personnes impliquées avant le 26 février prochain à 18h, date limite du dépôt des listes de candidature pour le premier tour du scrutin.
À Bouraille, c'est Livaï Roy qui a annoncé sa candidature hier. Il va conduire la liste demain Bouraille, soutenue par les loyalistes, mais constituée de personnalités de tous bords politiques. Livaï Roy qui était notre invité ce matin, bourraillier de toujours, il nous a expliqué son choix de conduire une liste pour les prochaines municipale.
Pourquoi j'y vais? C'est simple, c'est que ouais, ça fait près de 20 ans qu'on nous promet des choses, ça fait près de 20 ans que des jeunes partent de Bouraille, des entreprises quittent aussi Bouraille, la brousse se vide et c'est pour ça que je me présente aujourd'hui parce que ben, on a besoin de ramener du lien. C'est quand on écoute les histoires de nos anciens, tout le monde se connaissait à Bouraille. Et aujourd'hui, ben, on nous a mis un petit peu dans des cases et ce lien humain, on l'a perdu. Parce que la jeunesse, les anciens, ils ne savent pas qui c'est le fils de Jacques, de Paul, mais on ne sait pas vraiment, on n'a pas grandi, on n'a pas évolué avec ces enfants-là. Et aujourd'hui, on s'est un petit peu perdu tous de vue, et je trouve que c'est dommage dans ces petites communes, notamment agricoles, on doit avancer main dans la main.
Comme une charnière au cœur de la brousse, les Vaillerois entendent redonner à Bouraille une identité. Ils souhaitent développer un pôle santé, rénover les routes et plusieurs bâtiments publics, notamment la morgue. Son programme qu'il présentera dans quelques jours comportera également des propositions pour améliorer la sécurité. Demain, c'est la Saint-Valentin. Les amoureux ne l'ont pas oublié. Et même si la rentrée scolaire accapare de nombreux couples, ils profitent quand même des courses de dernière minute pour trouver leur bonheur à offrir. Les commerçants proposent de nombreuses idées cadeaux. Par exemple, à la bijouterie Créator dans le centre-ville, Serena propose une nouvelle série de bijoux.
Alors, on peut voir des colliers avec des petits cœurs, des boucles d'oreilles avec des cœurs et des petits zircons. Pour les petits bracelets aussi, on peut retrouver des petits cœurs, quelque chose qui peut rappeler la Saint-Valentin.
Et pour celles et ceux qui préfèrent créer eux-mêmes leurs cadeaux, Rusaprint propose dans la galerie de l'Alma de personnaliser les t-shirts pour votre amoureux ou votre amoureuse. Écoutez Michael.
Nous, on personnalise les t-shirts. Donc pour la Saint-Valentin, si vous venez pour faire un t-shirt de couple, il y a l'inscription d'un prénom de 12 cm qui sera offert. Franchement, c'est un peu tout. Il peut avoir par exemple un t-shirt homme, ça va être écrit LO et la femme VE pour faire love. Après, ça dépend des clients. S'ils ont des modèles de couple à proposer, ben, on le fait.
Certains choisiront plutôt d'offrir des fleurs spéciales Saint-Valentin. Bien sûr, il y a des idées cadeaux, par exemple chez Flower Shop avec Audrey.
On a toutes sortes de bouquets de composition à base de roses rouges, évidemment, mais pas que. Et vous allez avoir, en fait, des petits bouquets à la très grosse composition pour pouvoir satisfaire tous les budgets. On a aussi maintenant beaucoup de choses en fleurs stabilisées, des fleurs que l'on va pouvoir garder très longtemps. Ce sont des fleurs fraîches, mais qui ont subi un petit traitement pour pouvoir se préserver dans le temps. Et donc, elles ne fanent plus. Et donc, on a de très jolies compositions, en fait, à base de roses stabilisées, notamment.
Et puis il y a ceux qui sont sans doute plus parfums, maroquinerie, voire lingerie. Calixta est vendeuse chez Marlène et propose une large gamme de cadeaux.
Ce qu'on vend le plus, surtout pour la Saint-Valentin, c'est les sous-vêtements.
Sous-vêtements hommes, femmes
Les deux, mais je dirais quand même plus femmes. C'est vraiment le produit phare qu'on vend le plus pour la Saint-Valentin. Ouais. Petit soutien, petite culotte. Sinon, on a des petits sacs aussi qui se vendent bien, les petits sacs Guess ou Lacoste.
Voilà, des idées cadeaux, des propos recueillis par Kélinda Boiscou. Il est 11h et bientôt 53 minutes, une pause. L'actualité en métropole dans un instant et nous verrons que Bruno Retailleau est candidat pour la présidentielle 2027.
RRB, 11h, 13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Samedi 14 février, c'est la Saint-Valentin. Pensez à réserver votre table au restaurant Le Fun au 28 67 08. Retrouvez les suggestions spéciales Saint-Valentin sur la page Facebook Le Fun.
Pour la Saint-Valentin, Créator célèbre l'amour avec éclat. Promos, nouveautés et idées cadeaux précieuses vous attendent chez Créator. Cette année, dites-le avec un bijou. Créator, le plus grand choix de bijoux de Nouvelle-Calédonie.
Toute l'info en trois lettres. RRB.
L'actualité nationale, c'est la suite d'Infomag. On retrouve Jean-François Bodin.
Bruno Retailleau est candidat à la présidentielle 2027. Le patron des LR l'a annoncé sur ses réseaux sociaux. Il se lance dans la course à l'Élysée. Ce n'est pas vraiment une surprise, mais le timing choisi pour cette annonce est plus surprenant, même s'il ne doit évidemment rien au hasard. Alexandre Chauveau pour Europe 1.
Une déclaration de candidature dans le style Retailleau, assez sobre, sur fond bleu, sans prompteur, drapeau français et européen en arrière-plan. Le président des Républicains se présente aux Français comme l'anti-Emmanuel Macron.
Je ne chercherai pas à séduire à tout prix, et encore moins au prix de mes convictions. Je ne tenterai pas de vous convaincre par des slogans démagogiques ou des postures théâtrales. Je crois au sérieux, à la constance, à la cohérence.
Sur le fond, pas de surprise, Bruno Retailleau défend la baisse de l'immigration, le rétablissement de l'ordre et la revalorisation du travail. Il compte pour cela s'appuyer sur son année au gouvernement pour aller vite en cas d'élection.
J'ai vu précisément quels étaient les verrous à faire sauter pour briser l'impossibilisme qui nous paralyse trop souvent. Je sais ce qu'il faut faire, les décisions à prendre et les textes à faire voter.
En se déclarant aussitôt, Bruno Retailleau entend prendre de court ses concurrents, dont beaucoup pourraient se porter candidat à l'issue des élections municipales. Sa candidature apparaît en tout cas comme une manière de montrer qu'il faudra compter avec lui, et ce, en dépit des appels à l'organisation d'une primaire de la droite, plébiscitée entre autres par David Lisnard et Laurent Wauquiez.
L'actualité judiciaire avec le procès d'un tueur à gages de 14 ans. Il en a aujourd'hui 15. Ce jeune homme avait été recruté par la DZ Mafia à Marseille et avait tué un chauffeur de VTC d'une balle dans la tête en octobre 2024. Au terme de trois jours de de procès, il a été condamné à 17 ans de prison. La peine maximale requise par le ministère public était de 20 ans. C'est donc un peu moins, mais l'avocate des parties civiles, Maître Marx, salue une peine exemplaire.
C'est une peine qui me semble juste, en ayant pris en considération la victime. Je pense que les parties civiles ont une forme peut-être de soulagement, hein, même si aucune peine ne leur amènera Nessim.
Nessine Ramdam, c'est le nom de ce chauffeur de VTC tué d'une balle dans la tête qui n'était pas la cible désignée par la DZ Mafia. Hommage et recueillement à Bagneux, près de Paris. Il y a 20 ans, Ilan Halimi était séquestré et torturé par le gang des barbares au seul motif qu'il était juif. Il n'avait pas survécu. Une cérémonie du souvenir s'est donc tenue sur le lieu du calvaire du jeune homme. Décidément, le musée du Louvre n'arrête pas de faire parler de lui et cette fois-ci pour une vaste affaire de fraude à la billetterie. Depuis plusieurs mois, des guides touristiques de Metz avec des agents du musée, on percevait en liquide le prix des entrées, mais l'argent n'allait pas dans les caisses du musée, évidemment, seulement dans les poches des escrocs. Préjudice estimé 10 millions d'euros, c'est-à-dire 1,2 milliard de francs. Jean-Baptiste Marty.
Tout commence à l'été 2024. Des agents du musée, notamment en charge de la billetterie, pactisent avec des guides touristiques chinois. Le deal est bien faire payer aux visiteurs des faux tickets, tout en assurant l'entrée dans le musée grâce à la complicité des agents. L'argent collecté ne va ainsi pas dans les caisses du Louvre, mais dans les poches des fraudeurs. Au total, lors des perquisitions menées, près d'1 million d'euros est saisi. 3 voitures sont également confisquées. Préjudice pour le musée, plus de 10 millions d'euros. Pour Julien Dunoyer, agent du musée du syndicat Sud Culture, si cette fraude a pu se mettre en place si longtemps, c'est en partie dû à un manque d'effectifs.
Le service de la vente est un service où les manques de personnel sont assez criants. Ça fait qu'en effet, la charge de travail aussi est extrêmement importante et forcément la qualité du travail rendu est moindre. Après, est-ce que ça aurait permis d'empêcher ça ? Je n'en sais rien. Par contre, peut-être que ça aurait permis de tirer la sonnette d'alarme plus tôt.
Cette affaire démontre une nouvelle fois les failles du musée quelques mois après le cambriolage de la galerie Apollon et des bijoux de la couronne, toujours dans la nature.
À 11h57, la dernière pause dans ce journal avant de voir l'actualité sportive et de retrouver ensuite le magazine Transparence.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Nico Sushi Bar, votre restaurant sushi depuis 1998. Sur place de 11h à 14h et à emporter de 9h à 19h30. Mardi et samedi, tous les sushis à 350 francs. Mercredi, moins 15% pour les familles. Et vendredi soir, sushi à volonté. Téléphone 25 11 88, Facebook Nico Sushi Bar.
La rentrée chez Decathlon, du 14 janvier au 29 mars, c'est le vrai départ pour bouger. Tenue de classe ou de sport, chaussures, sacs, accessoires, tout pour une rentrée au top et toujours au meilleur prix. Avec maintenant 2 magasins, toujours plus proches de chez vous, Nouméa Centre-Ville et à Pogoty. Et aussi le site www.decathlon.nc avec livraison sur tout le territoire. Alors, à fond la rentrée!
Tentez votre chance au grand jeu La Niçoise. Jusqu'au 15 mars, La Niçoise vous régale toute l'année. À gagner 1 an, 1 mois ou 1 semaine de repas pour 2 personnes. Incroyable ! Si vous êtes déjà client, vous avez 2 fois plus de chances de gagner au tirage au sort. Jouez sur la page Facebook La Niçoise. Jeu gratuit et sans obligation d'achat. La Niçoise prend soin de vous.
Tout le sport en 3 lettres. RRB.
L'actualité sportive, on retrouve Jean-François Baudin.
Et on va commencer évidemment par les Jeux Olympiques avec la France qui a décroché une nouvelle médaille. C'est une médaille d'argent et c'est en ski alpin, Lionel Sabot.
Oui, et celle qui a remporté la médaille d'argent s'appelle Romane Miradoli. Elle a décroché cette très belle médaille dans l'épreuve du Super G, la skieuse française qui a été devancée par une légende du ski mondial féminin, l'italienne Federica Brignone. Déception en revanche en snowboard cross puisque Hélène Chollet a pris la 4e place de la finale après avoir écrasé l'Italie. Littéralement la concurrence sur les manches de qualification, c'est ballot. On notera aussi la défaite de l'équipe de France de hockey sur glace pour son entrée dans le tournoi olympique. Défaite 4-0 face à la Suisse. Au classement des médailles, la France est 8e avec 8 médailles. 3 d'or, 4 d'argent et 1 de bronze. La Norvège domine toujours ce classement avec un total de 14 médailles. 7 en or, 2 en argent et 5 en bronze.
Allez, un mot de sport dans la région pour la suite des Océania de cyclisme sur piste qui peut se poursuivre en Nouvelle-Zélande.
Alors hier soir, une médaille de bronze pour Enzo Martoreggio sur l'épreuve de vitesse par équipe. Il était associé à 2 Australiens. Puis une 6e place pour Kyrian Moutry dans la difficile épreuve de la course au point. Et puis ce matin, sur le kilomètre, Enzo Martoreggio a pris la 14e place en 1 minute 8 secondes 92 centièmes. En Kérine Elite, en premier tour, Hervé Sellin s'est classé 5e. Il a participé à la finale de repêchage. Il a terminé 2e deuxième et n'a donc pas pu accéder aux demi-finales. Et puis dans la course à élimination, élite, Kéril Moudry a pris la neuvième place.
On va tout vous expliquer. Il y a Thierry en régie qui est en train d'éclater un moustique sur une vitre. Et on se demande s'il va y arriver. Allez, on va passer maintenant avec de la voile, avec cette belle cérémonie hier soir au CNC. Le club a célébré le très beau parcours des équipages des bateaux calédoniens qui ont participé il y a quelques semaines à la Sydney Hobart. Écoutez, Tugdual Piriou, c'est le directeur du CNC.
C'était vraiment quelque chose, une performance sportive exceptionnelle. Enfin, les marques marquaient le coup. On est très fiers d'eux, la manière dont ils l'ont fait, la sportivité. Donc voilà, c'était l'occasion de faire une belle fête et de leur dire bravo et merci.
Une soirée de fête particulièrement appréciée par les marins calédoniens qui ont quand même souffert sur cette course en Australie. Arrivé à Hobart avec Michel Quintin sur BNC MyNet, c'est à bord d'un optimiste que Yann Rigal est arrivé hier soir sur les pontons du CNC.
C'est des moments magiques et à chaque fois qu'on vous demande pourquoi on fait ça, on a envie de répondre pour ces moments-là, au fait de partage, de voir le sourire des gens. C'est vraiment ce qui compte le plus, quoi. Au-delà de la performance sportive, après on est content de la partager aussi. Mais voilà, les sourires des gens, on a vibré, plein de gens nous disent qu'ils ont vibré, que ça a été chouette et cette soirée permet de prolonger ça et c'est vrai que ça fait chaud au cœur, c'est vraiment exceptionnel. On a envie de dire aux jeunes de s'investir, faites de la voile, on a le niveau en Nouvelle-Calédonie d'aller naviguer à l'étranger et de faire des résultats, donc voilà, on aimerait que ça apporte la motivation à d'autres pour venir faire ce qu'on a réussi à faire en fait.
La Sydney Hobart 2025 s'est terminée après un peu moins de 4 jours de course pour l'équipage de Pulpito, skippé par David Tréguier, qui en était à sa 4e Sydney Hobart consécutive. Et quand on lui demande quelle est l'image la plus forte qui lui reste en tête de cette édition 2025...
Au moment où on se dit c'est bon, c'est fini, et c'est pas fini. On est au dernier matin, au lever du jour, il y a une ambiance étrange où on sent qu'on... On n'est pas forcément bienvenu à l'endroit où on se trouve. Et on est sous spi, c'est magnifique. Et on fait une sortie de route. Une sortie de piste où on couche le bateau, littéralement. On le met à 90 degrés. Et en descendant le spi, il passe sous le bateau. Donc il se bloque et tout ça. Et on est 5 de l'équipage sur le côté du bateau à essayer de ramener le spi à bord. Et là, ça a été plutôt compliqué. Ouais. C'est un souvenir qui est assez marqué. Ouais.
David Tréguier qui nous a confié qu'il se verrait bien à Sydney à la fin du prochain mois de décembre pour se lancer dans une 5e Sydney Hobart consécutive. Midi et 3 minutes, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Restez bien avec nous. Dans un instant, c'est le magazine Transparence. Je vous rappelle que cette semaine, Elisabeth Noir reçoit Mila Koulotoukoumouli.
RRB, pour être les premiers et les mieux informés.